Radio Barque, contre-regard sur l'actualité narbonnaise. Radio Barque, 33e de notre saison, première partie. Bonjour Michel.
Bonjour Jean-Claude.
Bonjour Jean-Hugues Silberman.
Bonjour Monsieur Jules.
Alors vous êtes donc en campagne, on vous avait déjà reçu précédemment, vous étiez déjà en campagne, ça c'était pour les présidentielles. Maintenant nous sommes dans les législatives et on va revenir tout à l'heure sur à la fois votre candidature, votre programme bien entendu, et puis quelques échos de campagne, Monsieur Silberman.
Avec plaisir.
Le sommaire de cette 33e prévoit, Michel, que tu nous parles du cumul des mandats, c'est-à-dire une loi qui va commencer, ou du non-cumul, plus exactement.
Du non-cumul, oui.
Une loi qui, en principe, va s'appliquer à partir de maintenant.
Ah, pas en principe, elle va s'appliquer.
Elle va s'appliquer, oui. Oh, moi, je suis un grand sceptique. Bon, enfin, bref.
Ah, quand même.
Mais bon, elle est assez simple, alors elle s'appliquera probablement. Après quoi, nous parlerons, bah, évidemment, de Ferrand. Alors, pas Clermont-Ferrand, mais...
Ni du maréchal,
Ferrand. Ni du maréchal, mais enfin, il est difficile de faire l'impasse là-dessus en ce moment. Et puis, dans une deuxième partie, tu nous parleras, alors, Michel, de ta conception du rôle d'un député, d'un bilan d'un député, si c'est possible. Et puis de la rencontre du maire de Narbonne, Didier Mouly, avec des candidats à la députation, dont M. Silberman, M. Py et d'autres, je crois.
Oui, hein, j'ai surtout retenu le premier d'entre eux, Michel Py.
Oui, voilà. Enfin, alors bon, nous commençons par cette loi qui avait été votée sous le mandat de M. Hollande.
Oui, c'est une loi qui date de 2014. Hein. Et qui tente de régler un problème récurrent dans ce pays, et posé depuis fort longtemps, mais problème jamais résolu par les premiers intéressés, c'est-à-dire les députés et les sénateurs, à savoir, bon, le cumul des mandats.
Alors, ah bah ça a regimbé beaucoup à l'époque.
Ah hein, oui, et même pendant, en fait, le vote de cette loi, et encore aujourd'hui, j'ouvre une parenthèse, je rappelle quand même que certains candidats à la présidence de la République, et une grande partie, en fait, de ses amis politiques, se proposaient de remettre en question cette loi, en fait, s'ils avaient été élus, ce qui n'est pas le cas. Donc, rappelons d'abord les choses, hein, pour que nos auditeurs se fassent quelque idée de la question. Aujourd'hui, le cumul des mandats, qui de fait, hein, on n'est pas encore dans la nouvelle Assemblée.
Non. Hein,
donc elle s'applique pas encore.
On attendra le 18 juin ou le
aujourd'hui,
lendemain.
Aujourd'hui, donc le cumul des mandats concerne la plus grande majorité des députés et des sénateurs. Quelques chiffres, hein, pour avoir une idée. 476 députés sur 577, c'est-à-dire 82%. Et 267 sénateurs sur 348, pardon, 77%, exercent au moins un autre mandat électif. Et de qui plus est, ces parlementaires en question étaient le plus souvent à la tête d'un exécutif local. Un autre chiffre, 261 députés, donc 45%, et 166 sénateurs, 48%, étaient soit maires, soit présidents d'un conseil général, soit président d'un conseil régional. Exemple, la présidente du conseil régional Occitanie-Pyrénées-Méditerranée était aussi députée. Elle cumulait ces deux fonctions-là. Donc, à partir du 18 juin, hein, les députés qui seront élus devront choisir entre leur mandat de député et un autre mandat dans une autre collectivité territoriale.
Rappelons, alors, précisons au passage que dans la plupart des pays démocratiques comparables, ça se passe déjà comme ça depuis belle lurette.
Ah ben oui, mais nous étions une exception mondiale, en fait, Jean-Claude. Hein, puisque en Italie et dans tous les autres pays européens, environ 15% seulement des élus en question cumulés avec un autre emploi dans une collectivité locale. Hein. Ben, on a un autre aussi chiffre qui nous place au hit parade de l'échiquier mondial en la matière, quoi, hein, à savoir que nous avons le plus grand nombre d'élus par habitant.
Oui, aussi.
Enfin, bah, bon, il y a d'autres. Mais passons. Bah, donc, ça prouve que.
Alors, on peut... Rappelons qu'aux États-Unis, il y a 100 sénateurs.
Oui, non, mais.
300 millions de personnes.
300 millions de personnes. Hein, alors, on pourrait me rétorquer, mais oui, mais c'est un indice de la qualité de la vie démocratique de notre pays.
Bon, ça mesure l'intensité.
En tout cas, force est de reconnaître que, quand même, la raison est venue aux législateurs, et à partir de 18 juin, donc, les députés en question ne pourront plus cumuler avec un emploi exécutif, pardon, un mandat exécutif dans une collectivité locale. Je dis exécutif parce que rien ne leur interdira de cumuler leur mandat de député avec un mandat de conseiller municipal.
Voilà, par exemple, oui.
Prenons un exemple. Si par hypothèse, puisqu'on a des cas qui pourraient être concernés dans cette circonscription, si par hypothèse Michel Py était élu député, il serait obligé d'abandonner son mandat de maire pour n'être plus que conseiller municipal.
De
la même manière, M. Perrea serait obligé d'abandonner son mandat de maire
de Vildaigne
et de vice-président de l'agglo, hein, les deux réunis. Voilà pour être bien précis sur ce nom de salut. Donc c'est une quasi révolution intellectuelle, en tout cas, et politique. Oui. Hein. Alors, il faut savoir que cette loi a été votée dans l'esprit pour contribuer au renouvellement de la classe politique, hein, et notamment au rajeunissement, entre guillemets, des futurs députés et sénateurs en 2019, je crois, les élections sénatoriales, si j'ai bonne mémoire, ou 2020, je ne sais plus, enfin bon, dans ces eaux-là. Hein, qui aussi seront soumis à cette règle quand on va renouveler le Sénat pour un tiers. Donc, alors cela dit, il y a des élus, des hommes politiques et des juristes qui considèrent qu'on n'est pas allé suffisamment loin en fait, dans cette loi, et que si elle apporte effectivement une contribution à ce renouvellement de la classe politique, pour aller encore plus loin, il faudrait limiter le nombre, il faudrait limiter dans le temps le nombre de mandats.
Hein. Alors, ça, ce qui est prévu par M. Macron, si je comprends bien.
Et ce qui est prévu par l'actuel président de la République qui propose, enfin pas lui, hein, son gouvernement.
Oui, mais enfin c'est.
Donc, voilà. Distinguons bien les choses. Hein. C'est pas lui qui
mais
décide.
Ne soyons pas naïfs non plus.
Alors c'est vrai qu'il préside le Conseil des ministres et qu'il appartient au Conseil, enfin au gouvernement et donc à ce Conseil des ministres de proposer des projets de loi et en fonction du programme de son président.
Lui fera
pour
bien
être rigoureux.
Lui, hein. Là, ça sera bien des projets de loi et non pas des propositions.
Des projets de loi, on va y revenir éventuellement. Hein, donc 3 ans. Un peu sur le même modèle que ce qui concerne le président de la République, hein, puisque le président de la République, lui, ne peut cumuler que 2 mandats
l'un à la suite de l'autre. Temps, voilà.
Dans le temps. Donc, de parallélisme des formes, d'une certaine manière, le Macron, en fait, et pas que Macron, d'autres élus, y compris dans l'opposition, sont d'accord, effectivement, sur la limitation du cumul dans le temps. Voilà, bon, pour faire un point sur une question qui peut
donc
paraître
un changement quand même essentiel.
Mais, et qui explique le fait, d'ailleurs, qu'une très très grande partie, pour ne pas dire la majorité des députés sortants, ne se représentent pas. Hein, et que bon, on va arriver sur le marché, si je puis dire, hein, de jeunes candidats.
Donc il est, espérons-le, révolu le temps où l'on aura, comme on avait un peu partout, mais à Narbonne, il n'y a pas si longtemps, un député, maire, président d'agglo.
Fini.
Ce temps-là est bien révolu.
C'est fini.
Espérons qu'il y aura une plus grande efficacité aussi à ce niveau-là. On aura des élus qui se concentrent enfin à une tâche.
Alors cela dit, pourquoi j'insistais sur l'aspect limitation du cumul dans le temps ? C'est que, prenons un exemple, tiens, qui concerne notre circonscription, si je puis dire, c'est pas tout à fait la même circonscription, mais pour les élections sénatoriales, nous avons un sénateur qui maintenant a un certain âge. En disant ça, je ne porte aucun jugement de valeur sur la santé mentale et politique de la personne en question, pour qui j'ai le plus grand respect, M. Courteau, hein, qui fut élu sénateur, le plus jeune sénateur de France.
Oui, ça remonte loin.
Mmh. Hein, qui va probablement être candidat à nouveau dans le cadre de la prochaine élection. Et qui, si on fait le compte du nombre d'années passées au Sénat, probablement atteindre un record à la matière. Hein. Donc voilà pourquoi, certes, la loi du cumul est bien, en fait, est une bonne avancée, mais qu'elle serait encore meilleure si effectivement on arrivait à la limiter, en fait, à limiter ce cumul dans le temps, voilà, pour éviter ce genre de situation qui ne permet pas, en l'espèce, de renouveler le personnel politique local comme il conviendrait de le faire.
Ce qui, normalement, est prévu. Un mot, Monsieur Silbermann.
Oui, elle n'est pas encore votée.
Vous avez raison de le dire.
Ce qui suppose effectivement, je vois la remarque, ce qui suppose qu'il y ait une majorité au Parlement pour la voter.
Un petit mot rapidement sur M. Ferrand, tout le monde en parle, mais bon.
Ben, effectivement, c'est une affaire dont on ne peut pas ne pas en parler. Hein. Ben, nous y sommes, le feuilleton de la présidentielle recommence d'une certaine manière. Je note quand même que dans une relative indifférence, je ne sais pas si c'est moi qui... perçoit mal la réalité des choses, mais je n'ai pas le sentiment que ça atteigne des niveaux d'intensité, en fait, dramatique et psychologique, comme celui que l'on a
avec M. Fillon. Oui, sauf qu'avec M. Fillon, il a fallu du temps quand même pour que les choses se cristallisent et se concrétisent.
Alors là, l'affaire est un peu différente. Il ne s'agit pas de l'utilisation de financement public pour rémunérer, en fait, à la fois ses enfants, en fait, et sa femme. Hein. Là, il s'agit d'une affaire qui concerne M. Ferrand, qui concernait M. Ferrand plutôt quand il est coupé des fonctions de directeur général d'une mutuelle, et qui, après, avec l'accord d'ailleurs de son conseil d'administration et donc du président du conseil d'administration de cette mutuelle, a mis en place un montage financier extrêmement sophistiqué et très astucieux qui, in fine, permet, en fait, à sa compagne, tout simplement, de bénéficier d'un enrichissement personnel incontestable.
Voilà. Là, on est dans le cas typique de quelque chose qui est pas forcément illégal,
mais pas moral.
Mais qui est forcément très anti-éthique et très anti-moral.
Oui, voilà, c'est ça. En faisant quand même observer que, je le dis dans un de mes billets sur mon blog, que des montages de ce genre, de ce type, il y en a pratiquement, j'ai dit une centaine, il y en a pratiquement un millier chaque jour dans ce pays et à tous les niveaux et à tous les étages de la hiérarchie sociale, si je puis dire. Des pseudo frais de chargé de mission pour certains directeurs généraux de collectivités locales. Je le dis d'autant plus que, très honnêtement, Jean-Claude, j'en ai bénéficié. De tout cela, on est dans une situation là très particulière qui concerne effectivement un montage d'ordre privé. Mais il est vrai que Monsieur Ferrand a fait la faute d'entrer en politique. Parce qu'il n'était pas entré en politique et arrivé à ce niveau-là. Cette affaire serait passée totalement inaperçue.
Voilà. Et on marque une première pause.